Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de nous suivre partout où vous êtes, à travers la République. Et merci à tous les internautes qui sont connectés sur les plateformes digitales de Radio Capi. Quels sont les mécanismes de gestion des catastrophes naturelles? On en parle dans cette émission au Capi Service avec Monsieur Jean Rigobert Chimanga Musunga, il est le secrétaire général au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Monsieur Jean Rigobert Chimanga, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien.
Merci beaucoup.
On aura également en ligne Monsieur Muliro Machaouri, qui est chargé de programme UNDDRR, Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes naturelles. Et il intervient en ligne, il est déjà en ligne, on me fait signe. Monsieur Muliro Machaouri, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, composez les 081-82-82-827. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de la gestion du stress. Comment bien gérer le stress de la vie quotidienne? On en parle avec Dr Julius Elumba, sophrologue psycho-comportementaliste. Ce sera à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Debs Vita assure la mise en onde de cette émission. Paul Badianyama se charge de la retransmission live sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Naomi Moutouké réalise et coordonne cette émission au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, encore une fois, bienvenue dans votre magazine de la vie au quotidien. Les catastrophes naturelles peuvent survenir quand on s'y attend le moins. Il peut s'agir des inondations, des éruptions volcaniques, des glissements des terrains, des épidémies, des incendies, des tremblements des terres et autres. Les conséquences sont incalculables. On enregistre souvent des pertes en vies humaines, des déplacements des populations, des destructions matérielles considérables et des dommages sur le plan environnemental. Souvent, les autorités sont prises au dépourvu et les systèmes d'intervention est défaillant. Alors, pour prévenir et gérer ces événements, le gouvernement de la RDC, en partenariat avec les Nations Unies, travaille sur l'adoption d'une politique nationale de gestion des risques et catastrophes. Alors, quelles sont les grandes lignes de cette politique? Eh bien, nous allons échanger autour de cela avec nos invités. Alors, bien avant cela, nous allons vous proposer de suivre ce mot de Monsieur Bruno Lemarquis, qui est le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire. Et voici le mot qu'il a prononcé lors de l'ouverture de l'atelier sur les mécanismes de gestion des catastrophes naturelles. Suivez.
Du 23 au 25 septembre, donc il y a quelques jours, il y a eu à Kinshasa un atelier avec les travaux d'adoption de la politique nationale de gestion des risques de catastrophes pour les 25 prochaines années jusqu'en 2050 pour la République démocratique du Congo. Cet atelier et la formulation de cette politique publique s'est faite sous l'impulsion notamment du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières. Et cette politique affirme une volonté politique forte, qui est celle de rompre avec une logique de réaction permanente aux crises pour instaurer une culture de prévention, de résilience et de développement durable. Cette politique indique un choix à la fois audacieux et lucide, et il témoigne d'une ambition nationale de transformation profonde. Cette politique de gestion des risques de catastrophe est alignée sur ce qu'on appelle le cadre de Sendai, donc c'est le cadre international pour la question de gestion et de réduction des risques, et ça a été contextualisé pour la RDC avec ses quatre priorités qui sont d'abord la compréhension des risques, ensuite le renforcement de la gouvernance liée aux risques, ensuite l'investissement dans la réduction des risques pour la résilience, et enfin le renforcement de la préparation de la réponse et d'un relèvement résilient. Comme on le sait, la RDC est un pays d'une richesse exceptionnelle avec sa diversité humaine, ses ressources naturelles et son patrimoine culturel qui en font un territoire unique sur le continent africain. Et pourtant, cette richesse est souvent mise à l'épreuve par une série d'aléas récurrents auxquels le pays fait face, qu'il y a souvent, comme on le sait, des inondations, des glissements de terrain, des éruptions volcaniques, des épidémies, sans parler bien sûr de tous les conflits qui ont lieu dans le pays. Et tout cela, ça ne relève pas de l'exceptionnel, mais d'une réalité structurelle. Ces chocs successifs affaiblissent les communautés, entravent le développement et la trajectoire du pays dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Ils exercent aussi une pression considérable sur les finances publiques et sur les investissements privés. En tant que coordonnateur humanitaire, je dis souvent que la meilleure réponse humanitaire est celle qui réduit les besoins humanitaires. Et cette réduction des besoins passe nécessairement par une gestion proactive des risques. Trop souvent, nous parlons de catastrophe naturelle. C'est passé dans le langage courant, on dit « il y a une catastrophe naturelle », comme si elle relevait de l'inévitable. Or, les catastrophes ne sont pas naturelles et il n'y a pas de fatalité à ce qu'un aléa naturel se transforme en catastrophe. Ces catastrophes sont la conséquence d'un manque de préparation, d'un manque de gestion, d'anticipation, de gestion des risques, d'un déficit de gouvernance et d'une absence d'anticipation. Comme on le dit, gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est prévenir.
Bien, c'était là le mot de Monsieur Bruno Lemarquis, un représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident et coordonateur humanitaire. Bien, nous allons recueillir les réactions des autres intervenants. Monsieur Jean-Rigobert Chimanga Musungai, vous êtes secrétaire général au ministère de l'Intérieur. Votre réaction après ce mot de Monsieur Bruno Lemarquis.
Non, Monsieur Bruno Lemarquis a très bien parlé. Il a très bien parlé parce que certainement la gestion des risques des catastrophes est d'abord une question de prévention. Une question de prévention, vous avez vous-même déjà remarqué à plusieurs reprises dans notre pays, toutes les fois que les catastrophes surviennent, parfois nos différents services interviennent comme des réactionnaires. Et c'est parfois après la mort d'homme qu'on arrive à comprendre que les maisons ont été construites dans un environnement qui ne permettait pas d'être construites. Donc on se rend compte que cela a été fait dans des conditions qui démontrent clairement qu'il n'y avait pas eu de prévision préalable par rapport à cela. Donc, le mot de M. Bruno, ça sont à leur juste place. La politique elle-même a été prévue par Son Excellence M. le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, parce que il a constaté dans les cadres de ses prérogatives qui lui sont reconnues par la loi que la coordination des activités de gestion des catastrophes était pratiquement désarticulée parce qu'il y avait des structures qui ne suivaient pas, qui n'étaient pas coordonnées. Chacun s'y prenait comme il savait.
Oui.
Alors il n'y avait pas
une coordination, quoi.
Une bonne synergie. Alors c'est que il y avait réellement un problème qui nécessitait une certaine politique.
D'accord.
Qui permet à tout le monde de pouvoir adopter une ligne de conduite à suivre.
À suivre. D'accord. Monsieur Muliro Machaouri, vous êtes chargé de programme au Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes. Alors la première question que je vous adresse est de savoir qu'est-ce qu'on entend par catastrophe, notamment dans le contexte de la RDC, Monsieur Muliro.
Oui, merci beaucoup. Salutations au secrétaire général Jean Gobert. Effectivement, j'ai aussi suivi les mots de Bruno et j'ai été beaucoup plus impressionné du focus sur tout ce qui est prévention et réduction des risques et catastrophes. Et comme nous parlons des catastrophes, vous avez déjà donné quelques exemples d'une catastrophe, mais je voulais peut-être y mettre quelques éléments qui qualifient une catastrophe. D'abord, ça doit être un événement brutal. Un événement brutal ayant causé des pertes, des graves perturbations, soit des décès, soit des destructions massives, au sein d'une communauté quelconque, au sein d'une société quelconque, et qui a dépassé la capacité normale de cette communauté, et nécessitant une intervention extérieure. Donc, nous voyons l'aspect qui est beaucoup plus la gravité de l'événement. Nous voyons aussi l'aspect qui est le dépassement de la capacité de la communauté locale. Et nous voyons cet aspect de l'intervention de l'extérieur pour venir en aide à cette communauté. Donc, en bref, sont là les quelques mots-clés qui qualifient un événement d'une catastrophe. Et si on doit y aller, j'ai beaucoup apprécié le fait que Bruno a bien souligné qu'il n'existe pas de catastrophe naturelle. C'est un mot qu'on utilise à tort, souvent, parce qu'il n'y a rien de naturel dans une catastrophe. Soit c'est une faiblesse, une défaillance, ou bien quelque chose qui s'est passé qui a causé cela. Donc, en termes de gestion des risques catastrophes, si on veut qualifier l'originalité de la catastrophe, nous allons parler d'une catastrophe d'origine naturelle. Et là, nous pouvons parler de tout ce qui est glissement de terrain, inondations et autres, éruptions volcaniques. Et si nous parlons aussi d'autres catastrophes d'origine causées par l'homme, donc des catastrophes anthropiques, donc nous voyons l'homme, de par sa négligence et son oubli, il a causé des pertes, de sérieuses pertes et destructions. Donc, il faut vraiment qu'on puisse souligner cet aspect de naturel. Il n'y a rien de naturel dans une catastrophe. C'est soit les gens qui occupent. Il n'y a rien de naturel dans une catastrophe.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Moliro. Alors, je vais poser la question à Monsieur Chimanga. La RDC vient d'élaborer une politique nationale de gestion des risques et des catastrophes. Alors, quelle est la portée d'une telle politique pour le pays et pourquoi maintenant, Monsieur Jean Rigobert?
Merci beaucoup. Je retiens qu'il y a deux questions. Quelle est la portée et pourquoi maintenant?
Et pourquoi maintenant? Voilà.
Premièrement, la portée, elle est grande. Je peux l'articuler en quelques mots en disant ceci. La portée, la RDC d'abord, c'est un pays confronté à plusieurs risques. Comme l'a dit M. Moliro tout à l'heure, que je salue d'ailleurs en passant, que ces risques peuvent être d'origine naturelle, c'est-à-dire que ça peut être la pluie qui provoque des inondations,
les glissements des terrains,
ça peut être l'éruption volcanique, ça peut être la sécheresse, l'épidémie, et ça peut être le choléra, la maladie comme nous les avons. Et puis ça peut aussi venir de conflits armés.
Qui entraîne les déplacements massifs des populations.
Et la mort d'hommes. Ça entraîne des violences communautaires, comme Momondo et tous les autres, des accidents miniers, des effondrements des infrastructures, les incendies. Ça peut être des aléas qui sont provoqués par les hommes. Alors, la deuxième chose qu'il faut retenir est que pour gérer ces risques, on a quelques phases d'intervention. Il y a la prévention elle-même, qui est vraiment une phase importante. Il y a la préparation, et puis il y a la réponse et le relèvement ou la résilience qu'il faut vraiment apporter. Ça, ce sont les phases dans la gestion de risques qui doivent être prises en compte. Ensuite, il y a la dimension institutionnelle, qui doit être toujours dans la portée que vous avez demandé.
Le rôle la gouvernance.
Oui, certainement. Dans la gouvernance, ici, on peut parler du rôle des institutions. Les institutions, il y a les ministères, il y a les services publics, il y a les entités territoriales, que ce soit décentralisées ou déconcentrées, il y a la société civile, les acteurs privés, et il y a des partenaires internationaux qui interviennent aussi dans la gestion des risques des catastrophes. Chaque structure ou chaque intervenant a un rôle à jouer dans cela. Il y a les décrets de coordination, c'est justement ce que vous avez appelé tout à l'heure la gouvernance, les décrets de gouvernance de ces risques qui doivent être assurés généralement par le ministère ayant l'intérieur et la sécurité dans ses attributions. Et cette coordination doit être interinstitutionnelle et intersectorielle.
Et puis, alors, ce plan national que la RDC élabore maintenant, c'est un plan qui va durer 25 ans.
Exactement.
2025 à
2050. 2050. Exactement.
Et voilà. Et puis, bon, pourquoi maintenant? C'est la question que je vous ai posée.
Oui, mais la portée n'est pas finie. Elle est à la fois territoriale, okay. Elle est sociale, elle est juridique, politique. Elle est aussi économique et financière. Donc, cette portée, elle est vraiment globalisante, elle est inclusive, elle permet à tout le monde de jouer son rôle comme il se doit pour que les risques des catastrophes soient effectivement bien gérés. Mais pourquoi maintenant?
Pourquoi maintenant?
Ça, c'est une deuxième question que vous m'avez posée.
Tout à fait.
Pourquoi maintenant? C'est parce que, comme on le dit toujours, c'est pour répondre à plusieurs enjeux stratégiques et institutionnels, plusieurs enjeux sociaux et économiques de notre pays. C'est pour dire que la politique de gestion des risques des catastrophes est une nécessité stratégique qui se constate parce que il y a maintenant, on doit passer, on a vu pendant des années des choses, la gestion de ces risques qui n'étaient pas très coordonnées, on doit passer de la logique de réaction à la logique de prévention. Parce qu'on doit, protéger la population et assurer son développement, parce que aussi on doit renforcer la gouvernance et la crédibilité de l'État, et aussi parce qu'il faut mobiliser des ressources pour pouvoir gérer les catastrophes.
Parce que je me souviens, lorsqu'il y a eu la dernière éruption volcanique à Goma, c'était la panique, c'était un événement imprévu, les gens couraient dans tous les sens.
Exactement.
Il n'y avait pas une action coordonnée.
C'est pourquoi aujourd'hui la politique qui a été élaborée sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre a pour rôle essentiellement de pouvoir coordonner les activités sur terrain et de pouvoir renforcer la gouvernance et surtout rétablir l'autorité de l'État dans la gestion des risques des catastrophes.
Bien, Monsieur Muliro, dites-nous quel a été le rôle des Nations Unies dans le processus d'élaboration de cette politique et comment compte-t-elle accompagner sa mise en œuvre, Monsieur Muliro?
Oui, merci beaucoup. Effectivement, le système des Nations Unies a joué un rôle très important. Je parle sous couvert du secrétaire général de l'intérieur, avec qui le système des Nations Unies, les experts des systèmes des Nations Unies ont travaillé avec son équipe. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir, c'est que d'abord, le système des Nations Unies a influencé les processus. On a donné à ces processus une valeur très, très importante au sein même du système. Il y a eu des visites et des examens, des diagnostics qui ont été menés, et puis ce sont des examens multi-agences. Donc, plusieurs agences du système des Nations Unies, entre autres OCHA, FAO, PNUD, les bureaux des Nations Unies en charge de réduction des risques et catastrophes, pour essayer de voir dans la mesure du possible comment on peut apporter une contribution collective à tout ce qui est de la gestion des risques et catastrophes dans le pays. On doit aussi retenir que une part de financement même du travail qui est apporté d'abord sur l'élaboration de la stratégie a été financé par une agence du système des Nations Unies. Et là, je parle du PNUD et de l'accompagnement technique des autres agences aussi avec l'appui technique du bureau UNDIARA, le bureau des Nations Unies en charge de réduction des risques et catastrophes. Donc, à partir même de cette stratégie, on a poussé même les limites à aller vers le développement d'une politique parce qu'on doit vraiment garder le momentum et nous assurer que au-delà de la stratégie qui a une vision, un regard sur 5 ans, on développe une politique qui nous donne une vision beaucoup plus globale de 25 ans. Et au-dessus, même après même ces travées de la politique, on espère peut-être qu'on va aller vers une loi qui va nous donner même des aspects juridiques et contraignants de mesures d'application, comme mesures d'application et comme textes réglementaires. Donc, au-delà de tout ça, il y a eu le financement, j'ai parlé de financement, mais aussi de l'appui technique. Nous parlons aussi du plaidoyer avec d'autres agences et du système des Nations Unies. Nous voyons la Banque mondiale qui s'est aussi impliquée dans les processus de l'accompagnement de cette politique. Nous voyons aussi les fonds monétaires internationaux. On a eu beaucoup de réunions au sein du bureau des Nations Unies pour discuter avec toutes les parties prenantes concernant le développement de cette politique. Mmh. Et non seulement le développement, mais aussi la révision. On a lu le travail qui a été effectué à travers le ministère de l'Intérieur, et nous y avons apporté toute notre assistance. Et là, je voulais juste souligner le rôle spécifique de Bruno Lemarty, qui est le commissaire résident du système des Nations Unies. Il a vraiment travaillé en proche collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Il nous a tous mobilisés autour de ce dynamisme pour appuyer les pays, la RDC, dans le développement de
cette la politique nationale.
Donc c'est la chose la plus importante. D'accord. Mais aussi, nous devons souligner aussi la participation des autres entités qui ont, d'une façon ou d'une autre, contribué, et tout cela à travers le leadership du ministère de l'Intérieur et du secrétaire général de l'Intérieur avec qui nous avons ici, qui a vraiment donné le leadership à ce travail.
Merci. D'accord. Merci bien. Nous parlons des mécanismes de gestion des catastrophes naturelles. Papi Mboyo nous appelle déjà depuis la ville de Mbandaka. Le sujet vous intéresse, le standard est ouvert. Composez le 081 82 82 827. 081 82 82 827. Oh, Capi. Bien, Papi Mboyo, vous êtes en ligne depuis la ville de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, M. Jody. Bonjour aux invités. Ainsi qu'à tous les auditeurs, aux nombreux auditeurs de la radio.
Quelle est votre préoccupation?
Le sujet est intéressant. Les préoccupations sont les suivantes. Je dis, cette catastrophe naturelle, c'est quelque chose qui bat son plein dans les pays aujourd'hui, en RDC. En général. Vraiment, moi, qui ne serait pas trop long, je n'irais aller tout droit dans mes petites préoccupations. Vous voyez, je veux dire, aujourd'hui, chez nous, au Congo, nous avons des très beaux discours que nous prononçons, mais l'applicabilité de ces genre de discours n'a jamais eu lieu. Alors, je n'irais aller tout droit dans mes petites questions. Je dis, la première question, essaie de savoir qu'est-ce qui est à la base et cette catastrophe naturelle. Ça veut dire un. Et de deux, d'après le discours prononcé par le secrétaire général des Nations Unies que nous venons de suivre, avec vraiment beaucoup de tensions plus ou moins soutenues, il y a permis d'introduire des préventions qui, d'après les 5 dernières années qui viennent, sont devenues contre ces catastrophes naturelles. Alors, moi, je voudrais demander aux officiels qui sont avec vous au studio. Vous nous parlez des conseillers ou sur l'inspecteur du ministère de l'Intérieur.
Le secrétaire général.
Qu'ils nous disent qu'est-ce que le gouvernement prévoit d'après le discours du secrétaire général de la Nations Unies. De deux. Et de trois, pour chuter ce que je dis, toujours dans ce discours du secrétaire général de la Nations Unies, parce que vous l'avez suivi, on a avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt, il dit. J'aurais fait prévoir et prévoir c'est prévenir. Alors, dans les premiers de mortels, dans les cas sous-examen, le gouvernement, sur les plans socio-économiques, qu'est-ce qu'il prévoit, qu'est-ce qu'il nous rassure, peut-être les Congolais, dans cette situation. Merci beaucoup de ce que j'ai dit.
Bien, merci à Papi Mboyo depuis Mbandaka. Vous voulez aussi participer à cette émission, composez le 081 82 82 827. Monsieur Jean-Rigobert Chimanga, vous avez suivi la préoccupation du compatriote de Mbandaka. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, il a pleinement raison de se préoccuper de cette question. Mmh. Le grand problème, c'est que il faudra que Papi sache réellement que pour gérer les risques, il faut d'abord les connaître. Parce que M. Bruno, dans son discours, a très bien montré qu'il y a la connaissance des risques. Et ensuite, il y a des mesures anticipatoires qu'il faut prendre par rapport aux risques. Il faut d'abord connaître les risques. Et la connaissance des risques exige que Papi Mbaye, Papi Mboyo, tel qu'il dit, sache très bien que bientôt, avec cette politique, le ministère de l'aménagement du territoire, par exemple, va élaborer une cartographie pour montrer les zones où on peut construire, où on ne peut pas construire, pour éviter les inondations. Et lorsque cela va être fait, le ministère de l'Intérieur va publier tout cela pour que chacun sache que quand on lui vend la parcelle dans une zone qui n'est pas non édifiante, qui est non édifiante, il ne puisse pas y construire. Parce que
déjà, il semble que la météo a annoncé qu'il y aura des fortes pluies d'ici là. On risque d'avoir encore des inondations.
Il y aura un système d'alerte précoce qui va certainement permettre à chaque citoyen de savoir qu'il y a des aléas qui risquent de se transformer en catastrophe. Mais tout cela a besoin de la compréhension de tout le monde. Donc, il faut que cela soit compris comme étant une activité non seulement de l'État tout seul, mais avec la communauté. La population doit le savoir aussi. Voilà.
Bien, on va accueillir un autre auditeur, Platini Mbombo, toujours en Bandaka. Bonjour. Bonjour Platini, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la prévention des catastrophes naturelles?
Voilà, merci beaucoup Jody. Je salue l'invité, je salue aussi mon professeur. J'ai bien suivi la thématique, c'est que la catastrophe naturelle, c'est une chose qui est aussi naturelle. Mais moi, j'ai un témoignage ici de la ville de Mbandaka où il y a une fissure naturelle. Fissure naturelle au bord du fleuve. Au bord du fleuve, il y a une fissure, je vous dis, naturelle. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont construit des maisons dans le même fissure-là. Et ce fissure, il y a ensuite de temps, donc pendant l'année, il y a une vibration qui s'est faite. Et maintenant, si vous regardez de maison qui est à côté de là, il y a du cassier et tout ça. Bon, je ne sais pas. L'invité a dit qu'il a tout ça. Maintenant, avant de faire tout, il faut prévenir que l'invité peut dire. Parce qu'il y a des coins de réforme, il y a des fissures naturelles. Ici, le compteur, je connais des coins. Je prends l'exemple comme dans le territoire de Ingendé. Il y a un coin là qui est sur des fissures naturelles, qui sont sur les catastrophes naturelles. Et ces catastrophes, ce n'est pas ça se fait chaque jour, non. Mais il y a des délais, soit après 6 mois, après 3 mois, après une année, vous allez voir que non. Ah, parce qu'il y a des gens, hein, comme les notables, les chefs coutumiers, qui connaissent très bien.
Alors, quand vous parlez des fissures naturelles, il s'agit des érosions ou des fissures provoquées par les tremblements des terres.
Le fissure naturel, c'est moi je vous parle. Ici, dans la ville de Mbandaka, il y a une fissure au bord du fleuve. Donc, au bord du fleuve, jusqu'au port, là.
D'accord.
Il y a une fissure naturelle très fort là-bas.
Voilà, il y a une fissure et les gens ont construit tout autour et il y a risque, il y a beaucoup de risques.
Et si vous regardez bien dans la maison qui est là, après 6 à 7 mois, vous allez voir qu'il y a un quartier au niveau de mise. Parce que la fissure là tremble. Hein? Après 6 mois, tremble une fois.
D'accord.
Et les gens qui ont construit la maison tout là, donc, il y a la réhabilitation de la réhabilitation. Alors, qu'est-ce que l'invité peut nous dire? Là où il y a des fissures naturelles, il y a aussi des maisons autour de ça. Parce qu'au Congo, il y a des fissures, il y a. Qu'est-ce que l'invité peut nous dire sur le plan de la prévention?
Bien.
Il y a un mécanisme que le ministère de l'aménagement du territoire a déjà mis en place pour prévenir là où il y a des fissures, où il y a des maisons naturelles.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Chimanga, vous avez la parole.
Certainement, notre ami a bien vu qu'il y a fissure, et si la fissure constitue un danger pour la vie des populations qui habitent dans les environs, cette population doit être évacuée parce qu'elle risque de s'effondrer lorsqu'il y aura de fortes pluies. Donc, ce qu'il faut prendre comme mesure, c'est d'empêcher les gens d'habiter là où il y a les dangers. Parce que la mission, le programme ou la politique a comme objectif protéger la population, protéger leurs biens aussi. Donc on ne peut pas laisser les gens habiter dans les conditions qui peuvent favoriser leur destruction. Donc voilà.
Vous prenez par exemple le cas de la ville de Bukavu. Qui est sur un terrain collinaire. Exactement. Les gens construisent sur les pentes, il y a des glissements des éboulements.
Il faut éviter que les gens soient exposés à des risques qui peuvent vraiment endommager leurs biens et ou aussi les entraîner à la mort. C'est ça l'objectif de cette politique.
Oui. À Bukavu, par exemple, il y a des morts et les autres reviennent encore construisent sur
ces... Non, c'est pourquoi il faut les renforcements de l'autorité de l'État pour empêcher aux gens de pouvoir s'exposer continuellement à des risques de ce genre-là.
Monsieur Chimanga, on dit souvent que gouverner, c'est prévoir.
Exact.
Alors pourquoi observe-t-on pourtant un manque de préparation quand il y a une catastrophe, on est pris au dépourvu, on ne sait pas par où commencer?
Oui, c'est justement parce qu'il n'y avait pas tous ces instruments. Vous savez, on ne prévoit pas simplement parce qu'on se réveille un matin de son lit, on dit on s'en prévoit. Non, on doit avoir quelques instruments de planification. Et parmi ces instruments, il y a cette politique qui met ensemble plusieurs structures qui travaillent dans les secteurs de pouvoir regarder dans la même direction. Il y a plusieurs structures dans tous les ministères. Le ministère de l'Intérieur avait ses propres structures. Le ministère de l'Action humanitaire avait ses propres structures. Le ministère de la Santé avait ses propres structures. Et s'il n'y a pas une coordination, une gouvernance de ces risques-là, et c'est comme ça qu'on
on risque d'y aller de manière dispersée.
Et c'est justement ce que vous avez vu. Oui. Pourquoi maintenant ? C'est justement parce qu'il n'y a pas eu cette coordination, il n'y avait pas eu cette politique qui met tout le monde ensemble, qui clarifie les rôles et qui permet à chacun de jouer sa partition.
D'accord. Monsieur Mouliro, dites-nous quelles sont les principales interventions des Nations Unies en matière de gestion et de prévention des catastrophes en République démocratique du Congo.
Merci beaucoup. Si vous permettez que je puisse prendre une minute pour apporter aussi un élément de contribution à la question pertinente de Platini Mbombo, de Mbandaka, qui nous parlait de fissures. Je pense que c'est une question beaucoup plus pertinente. Et juste pour dire, la fissure telle qu'elle est, elle reste vraiment naturelle. Mais l'occupation du sol, l'occupation, les gens qui construisent autour de cette fissure, il n'y a rien de naturel dans tout ça. Et quand l'impact va venir, on ne va pas parler d'une catastrophe naturelle. Ça, normalement, on devrait gérer ça pour que ça soit juste un événement, mais pas causer des pertes et des dommages. Donc, dans l'optique même de gestion des risques et catastrophes, on est dans le sens qu'on doit limiter qu'un aléa naturel ne se transforme en catastrophe. Et c'est ça vraiment le focus de la présente politique. Pour retourner à la question des principales interventions des Nations Unies en matière de gestion et de prévention des catastrophes, je voulais encore dire que quand nous parlons de la gestion, nous voyons tous les cycles de gestion des catastrophes, mais quand nous parlons de la prévention, c'est vraiment, on se focalise sur les activités qu'on doit mener pour nous assurer qu'on évite tout ce qui est comme perte et autres. Donc, en matière de gestion des risques et catastrophes, le système des Nations Unies finance des activités de prévention. Dans les activités de prévention, nous voyons des activités comme le reboisement, nous voyons les activités comme la gouvernance et la gestion des forêts, la gouvernance et les actions de l'occupation du terrain, la gouvernance et la gestion même de l'aménagement du territoire. Le secrétaire général nous a parlé de délinéation des zones à haut risque. On doit comprendre quelle est l'exposition d'une ville de Bukavu, par exemple, aux inondations, aux glissements de terrain, pour éviter vraiment et prendre des mesures et comment on peut gérer cette exposition pour que les aléas qui sont naturels ne se transforment pas en catastrophes et causer des pertes en vie humaine. Mais aussi, nous allons en vie humaine. Nous voyons aussi le déploiement des systèmes d'alerte précoce. C'est un mécanisme qui a montré son efficacité. Donc, vous mettez en place des systèmes qui vous permettent d'anticiper et d'alerter au préalable, avant un événement. Ça réduit même la réponse, l'écoute de la réponse. Ça sauve des vies. Et donc aussi la mise en place des salles de veille, des suivis quotidiens des événements. La Metelsat est en train de faire cette observation. Et pourquoi nous disons ça? Parce qu'il y a des petits événements même qui peuvent causer de sérieux problèmes de par d'autres éléments qui ne sont pas naturels. Par exemple, l'aménagement du territoire. Comment on gère tout ce qui est comme déchets et autres qui peut causer de sérieux problèmes dans une ville comme la ville de Kinshasa. Donc, en matière de gestion des risques et catastrophes, nous voyons l'aspect humanitaire aussi qui intervient parce que même si on prévoit, même si on réduit, même si on se prépare, il y aura toujours un élément de risque, un élément qu'on appelle les risques résiduels. Et là, comment on doit les gérer avec maintenant l'approche de réponse et tout ce qui est autour de la coordination et à travers, par exemple, l'agence comme OCHA qui s'occupe vraiment de la coordination de la réponse. Il y a aussi des activités qui sont liées à la conduite, des évaluations des pertes et dommages, la distribution des vivres et non-vivres, la réhabilitation des infrastructures clés des hôpitaux et autres. Voilà, dans l'ensemble, il y a tout un paquet d'activités que le système des Nations Unies apporte dans chaque pays avant la catastrophe et durant même la catastrophe. Et après la catastrophe, tout ce qui est développement résilient, on s'y met. Et juste pour aussi souligner, le focus même de cette politique, et c'est que moi aussi j'ai apprécié du discours de l'intervention du secrétaire général, c'est le focus est vraiment de rompre avec l'approche des réactions et s'aligner vers un mécanisme de prévention et ou d'anticipation. On doit éviter que les risques, que les aléas ne se transforment pas en catastrophe. Merci.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Nous parlons aujourd'hui des mécanismes de gestion des catastrophes naturelles. Vladimir Gouzangila, vous êtes à Kikwit. Blaise Saïdi à Kisangani. Vladimir Gouzangila, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à mon patron de l'administration.
Bien, quelle est votre question?
Merci beaucoup. Je salue les bravos de notre secrétaire général de l'Intérieur. Ma préoccupation serait celle-ci. Vous savez, en matière de catastrophes, ce n'est pas une matière qu'il faut attendre parce que nous ne savons pas à quand cela va se produire. Et lorsque cela se produit, il y a toujours des effets négatifs qui restent. Si je pouvais prendre le cas de la ville de Kikwit où je suis,
Merci de vous éloigner de votre radio parce que vous avez tendance à suivre là-bas et ça fait un décalage. Oh, ouais. Vous pouvez réduire le volume de la radio, vous suivez à partir de votre téléphone directement.
Merci beaucoup. Je disais si je pouvais prendre le cas de la ville de Kikwit où je suis.
Oui.
Dernièrement, mon service de la protection civile que je dirige a fait une enquête sur... nous avons relevé plus de 80 têtes d'érosion dans la ville de Kikwit. Et là, je parle bien de l'échantillon. Vous faites tous les rapports à la hiérarchie, mais jusque-là, rien ne fait. Et à l'heure actuelle, même, il y a un quartier appelé Kanzongi, où même les piétons ont du mal à arriver. Mais c'est dans la ville de Kikwit. Et ça, je parle des érosions. Ça comptait d'autres catastrophes. Or, c'est comme je l'ai dit, en matière de catastrophe, on n'attend jamais. Mmh. Et j'ai suggéré à notre secrétaire général, avec des mécanismes qui sont en train de se faire, qu'il intègre aussi les autorités politico-administratives, notamment le maire de la ville, le chef de secteur, des territoires et autres. Non seulement à leur niveau, mais aussi le chef de l'urbanisme, le chef d'habitat et autres. Parce que tout cela est dû aux mauvaises canalisations des eaux des pluies, la construction anarchique, mais aussi manque de plan urbanistique de la ville. Et voilà aujourd'hui comment la ville se retrouve.
Bien, par exemple, à Kikwit, est-ce que vous avez une idée sur le nombre de têtes d'érosion qu'il y a dans la ville?
Et là, je parle de l'échantillon, c'est 80 échantillons de têtes d'érosion que nous avons prélevés.
Merci bien.
C'est la date du 25 novembre 2024 et que les services de la protection civile à qui je chapeaute ici l'a fait.
D'accord, merci. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, cher Jody.
Oui, on vous écoute.
Bonjour à l'invité. Oui, cher Jody, c'est pour votre information. Vous devrez informer les gens de la technique qui c'est depuis hier que la radio Capi n'aimait pas à Kisangani.
Oh là là, désolé, voilà. Merci pour l'information. On vous écoute.
Oui, merci bien. Oui. Je dois m'épargner un peu de la lecture. Je dois aller juste à quelques questions, puisque l'invité avait quand même brossé son exposé, c'est trop intéressant. La première question, quels sont les principaux défis rencontrés par la RDC dans la mise en œuvre de cette politique? La deuxième question, comment impliquer davantage les communautés locales dans la prévention et la gestion des catastrophes? La troisième question, quels mécanismes de financement durable peuvent être développés pour renforcer la résilience face aux catastrophes? Et pour citer pour cette série de questions, à quelle mesure les systèmes d'alerte précoce sont-ils adaptés aux réalités locales? Par exemple, les zones rurales, analphabétisme, manque d'accès à l'Internet. Voici les quatre questions que je m'arrête à ce niveau-là, cher Jody.
Merci beaucoup, Blaise Saïdi, depuis Kisangani. Nous parlons des mécanismes de gestion des catastrophes naturelles. Je vais donner la parole à Monsieur Timanga.
Merci beaucoup pour toutes ces questions. Merci aussi aux intervenants de tout à l'heure.
Oui.
Pour ce qui concerne le premier intervenant, il se préoccupe de voir comment les têtes d'érosion sont dans la vie des
Kikwites,
et comment ils pensent que l'on puisse, qu'est-ce que la politique prévoit par rapport à la prévention de ce. Ça fait partie des problèmes réels parce que il faut qu'ils connaissent que notre politique, qui est sa politique aussi parce qu'il est du ministère de l'Intérieur, c'est une politique qui est assise, qui a une dimension territoriale, qui a une portée nationale, une portée provinciale et même portée locale. Ça veut dire qu'il y a des têtes d'érosion qui peuvent être gérées au niveau local. Et on peut utiliser les bambous pour empêcher que l'érosion ne progresse. Au niveau provincial aussi, l'autorité provinciale doit fournir des efforts à son niveau pour pouvoir prendre en charge cette...
La gouvernance doit être décentralisée.
Décentralisée, certainement. Mais au niveau national, c'est lorsque les efforts provinciaux sont dépassés que le pouvoir central intervient pour pouvoir mitiguer ces risques. Mais de toutes les façons, cette dimension territoriale est déjà prise en compte dans la politique. Mais aux différentes questions posées par notre ami de tout à l'heure de Kisangani, il demande quels sont les défis que nous avons rencontrés dans la mise en œuvre. Mais la politique n'est pas encore mise en œuvre.
Elle n'est pas encore mise en œuvre. On n'est pas encore à cette étape-là.
On n'est pas encore à cette étape-là. Et puis, il pose la question de savoir qu'est-ce que...
Alors, quand est-ce que vous prévoyez la mise en œuvre?
Nous disons très clairement que cette politique va être soumise d'abord, Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, va déposer ça au Conseil des ministres, discuter avec tous ses collègues ministres pour la validation finale. Et Son Excellence Madame la Première ministre va institutionnaliser cette politique par un décret. C'est à ces moments-là que la phase de vulgarisation va commencer. Et nous serons aussi à Kikwit pour expliquer, à Kisangani pour expliquer l'appropriation de cette politique à tous ceux qui sont sur terrain, que ce soit la communauté, que ce soit les services au niveau provincial et au niveau des entités territoriales.
Alors, quel sera le niveau d'implication des communautés?
Les communautés sont vraiment les premiers acteurs dans la mise en œuvre de cette politique. Il est bien prévu que les communautés, comme nous l'avons dit, même la société civile, même les universités, tout le monde est intéressé à pouvoir s'approprier cette politique pour pouvoir mitiguer ces risques. Parce que quand les risques arrivent, ils ne choisissent pas qui est secrétaire général et qui ne l'est pas.
Qui ne l'est pas, voilà. Est-ce qu'il y a, quel sera le système d'alerte?
Le système d'alerte est même prévu qu'il doit être construit. Avec, vous avez suivi M. Machaour, il le dit très clairement qu'on va avoir une salle d'éveil, on va avoir un centre des opérations. C'est pour que tous les secteurs, comme par exemple le Meltelsat, qui est vraiment un instrument efficace dans la surveillance de la pluviométrie, va donner les alertes et les alertes seront diffusées à tout le monde, avec bien entendu des recommandations aux différents ministères pour prendre des précautions par rapport aux alertes qui sont données. Les alertes seront données avec un certain niveau de récurrence. Ça peut être maximal ou moyen.
Le moyen pour dire attention, il y a danger, voilà. Il faut évacuer.
Cela doit être fait avec un monitoring beaucoup plus clair pour permettre à chacun de pouvoir jouer sa partition de façon que les risques soient complètement mitigés.
Bien, on va accueillir Aloïs Sakaj. Vous êtes à Louisa. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama. Bonjour également à tous nos invités.
Quelle est votre préoccupation, Aloïs?
Oui, j'étais en train de dire ceci, que le mécanisme de gestion des catastrophes répond à tout un cycle. Je crois les deux invités avec vous sur le plateau sont revenus sur beaucoup de choses que je pouvais dire. Mais ici, je vois la prévention, la réduction, la préparation des communautés, la réponse efficace parfois aux crises lorsque c'est déjà arrivé, en chitant par le relèvement. Effectivement, ils ont détaillé toutes ces matières-là. Mais ma préoccupation était sur la phase de l'appropriation. Et, mais comme l'invité de tout à l'heure vient de dire qu'ils ne sont qu'à l'étape où, à un moment donné, d'autres étapes d'appropriation, de vulgarisation vont suivre, alors je me limite juste à cette interpellation-là. Parce que nous ne cessons jamais de décrier. Nous qui sommes dans le Congo profond, à Louise ici par exemple, Nous sommes victimes de beaucoup de catastrophes naturelles.
Lesquelles, par exemple, à Luisa, vous avez quel problème?
Oui.
À Luisa, vous avez quel problème?
Les problèmes d'érosion, par exemple. Nous avons une source d'eau potable qui nourrit toute la communauté de Luisa. Ça s'appelle la source en camp. Alors même que je vous parle, il y a une érosion qui a donc frappé cette source d'eau-là. Oui.
D'accord, merci.
Il y a eu récemment la sénatrice Ida qui est venue quand même avec des travaux, mais qui traîne jusque-là parce que c'est avec sa volonté pour pouvoir faire ces travaux-là, mais finalement, on se rend compte que ça n'avance pas.
Ça n'avance pas, peut-être que ça demande des gros moyens. Merci beaucoup, Sakaji. Monsieur Mouliro, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Il y a une question qui a été posée autour du système d'alerte précoce par Blaise, qui s'est demandé comment adapter, par exemple, le système d'alerte précoce aux réalités locales. Il a pris l'exemple des niveaux d'éducation, tout ce qui est alphabétisme, tout ce qui est accès à l'Internet. Effectivement, si nous parlons des systèmes d'alerte précoce, nous voyons des différents piliers dans la connaissance du risque. Par exemple, on doit connaître où est le risque, quel est le niveau d'exposition, quelle est la vulnérabilité de la communauté. Par exemple, à Luisa, on veut savoir qui est vulnérable à cette érosion que les collègues sont en train de parler. Il y a le mécanisme qui est beaucoup plus centré sur les suivis, l'observation, la prévision, tout ce que la météo nous dit. Et d'autres institutions. C'est aussi un élément important. Mais quand nous parlons maintenant du troisième pilier qui est la communication et la dissémination, c'est là où nous devons communiquer avec la communauté. On doit choisir les canaux pour passer les messages. Donc, si on a un problème lié à l'alphabétisme dans une communauté X, on ne peut pas utiliser, par exemple, les Français pour passer les messages. On doit prendre en considération les niveaux d'éducation et transformer les messages dans un langage qui sera
compréhensible,
plus, abordable par la communauté. Donc c'est comme ça qu'on essaie d'aborder tout ce qui est communication. Il a parlé de l'accès à l'Internet. On ne va pas chercher à envoyer des trucs par SMS ou bien par les réseaux sociaux. Si on se rend compte qu'il n'y a pas une couverture téléphonique dans une communauté, on cherche à communiquer avec la communauté locale. On doit peut-être utiliser les chefs, les opinions leaders, les opinions communautaires, les chefs des villages pour passer un message. Donc, dans la mise en place d'un système d'alerte précoce, il y a tout un travail qui est fait et les contextes de chaque entité va définir les modes d'opérationnalisation de ces systèmes d'alerte précoce.
Bien, Monsieur Mouliro, dites-nous comment instaurer un système de financement efficace parce que tout ça, le système d'alerte, les interventions, la prévention, ça demande des moyens.
Oui, effectivement. Donc, quand nous parlons de financement, comme nous l'avons tantôt dit, notre focus est vraiment sur les mécanismes de financement pré-catastrophe. Et là, qu'est-ce que nous voulons voir? On veut vraiment réduire les coûts de l'intervention parce que $7 qu'on investit dans la réponse équivaut à $1 qu'on aurait investi dans la prévention ou la réduction. Donc, on fait des économies si on intervient dans la prévention et la réduction des risques et catastrophes. On évite des pertes en vie et autres, parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer la vie d'un être humain. On doit éviter vraiment qu'on n'ait pas de pertes. On doit minimiser les pertes. On va minimiser les dommages que cela peut causer. On retient aussi qu'une catastrophe cause de sérieux problèmes, a de l'impact sur l'économie même, la trajectoire du développement d'un pays, sur le budget national. Voilà la raison pour laquelle on doit vraiment focaliser notre approche dans cette politique, c'est bien pris en considération, et tout ce qui est financement pré-catastrophe. Et comment on peut financer maintenant cette politique? On doit financer par exemple à travers le budget national et provincial. Là nous saluons les efforts qui ont déjà été menés au niveau national. Et dans la loi budgétaire 2026, il y a une ligne qui a été dédiée à tout ce qui est gestion des risques et catastrophes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit saluer. Et dans la politique telle que nous l'avons, je l'ai lu, il y a l'aspect de financement au niveau national, mais aussi au niveau provincial. Il y a donc les gouverneurs des provinces sont censés mobiliser ou mettre à côté deux moyens pour permettre qu'il y ait des ressources pour tout ce qui est de la gestion pré-catastrophe, des interventions qui doivent être menées pour éviter l'érosion, par exemple, de Kikwiti, à ne pas vraiment se transformer en une catastrophe et causer des pertes en vies humaines. Il y a aussi d'autres contributions venant des partenaires financiers qui peuvent contribuer directement à ces fonds qui est dédié à tout ce qui est prévention, réduction et préparation. Mmh. Il y a aussi les mécanismes de redevance. Il y a un service que la gestion des risques et catastrophes accorde à d'autres services. Et normalement, il y a une redevance qui doit être suivie pour permettre qu'on ait assez de moyens et éviter qu'il y ait, par exemple, je donne un exemple, on a beaucoup de cas de noyades actuellement. Et c'est parce que il n'y a pas de redevance. Si on avait des mécanismes de redevance autour de la navigation, il y a des moyens qui sont collectés pour nous permettre de suivre les transports lacustres, les transports fluviaux et empêcher tout ce qui a comme perte des
vies humaines. Oui.
Donc il y a tout un mécanisme de financement qui peut être centré autour de ça.
D'accord.
Mais aussi, lorsqu'on aura par exemple un mécanisme réglementaire comme la loi, mm-hmm. On peut avoir des pénalités et des sanctions. Et là, ça va encore gonfler même la caisse. Et les fonds pour permettre d'avoir à mettre en place des mécanismes de financement. Juste pour citer, nous retenons aussi qu'il y a déjà des financements pour la réponse. Il y a la Caisse nationale de solidarité qui est déjà opérationnelle, qui intervient dans la réponse. Il y a d'autres mécanismes de réponse, de financement rapide.
Oui.
Au sein du système des Nations Unies, nous avons les mécanismes comme les CERF. Au niveau de la Banque mondiale, ils ont un mécanisme qu'ils appellent CERC. Au niveau de la Fédération de la Croix-Rouge, il y a un mécanisme qu'on appelle DREF. Mais tous ces mécanismes interviennent dans la réponse.
D'accord, merci
et
beaucoup.
Et voilà que nous voulons vraiment,
oui.
à travers cette politique,
mm-hmm.
donner un accent particulier au fonds réservé pour la prévention, la réduction et la préparation.
Monsieur Timan, votre réaction par rapport au financement?
Par rapport au financement, certainement, vous savez, nous saluons énormément les efforts que les Nations Unies apportent à notre pays jusqu'à ce jour et les différents partenaires financiers et techniques qui nous apportent un appui consistant dans la gestion des risques de catastrophes jusqu'à ce jour. Nous les remercions énormément et nous disons que de plus en plus la politique de gestion des risques de catastrophes, comme l'a bien souligné au cours de la clôture, l'activité, la cérémonie de clôture de cette politique, Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, mm-hmm. il a dit que la politique, c'est pas simplement un problème des écrits, un problème de textes et de structures, mais c'est aussi un état d'esprit qui doit caractériser la manière de gouverner, de prévoir et de pouvoir anticiper toutes ces choses. Donc ça veut dire que les financements doivent être aussi l'apanage du gouvernement. C'est comme ça que vous allez voir que dans cette politique, il a été prévu la création d'un fonds qui doit certainement soutenir les activités de prévention.
Un fonds national de gestion des catastrophes.
C'était prévu pour que ça puisse soutenir, au moins qu'au niveau gouvernemental, on ait aussi la capacité de mobiliser les fonds nécessaires pour jouer et intervenir.
Est-ce qu'il est prévu également la mise en place d'un corps, je ne sais pas moi, des sapeurs-pompiers ou des gens qui vont intervenir en cas de catastrophe, des gens formés
Il est prévu au contraire de créer une direction générale de la protection civile.
Civile.
Et dans cette
direction. Bon, les sapeurs-pompiers, c'est beaucoup plus pour les cas d'incendie. Hein.
Non, la direction générale de la protection civile incarne dans son sein un ensemble de disciplines. Il y aura la police qui est là, il y a les sapeurs-pompiers seront là, il y a les secouristes qui vont être là. Donc,
c'est intéressant, mais désolé, on n'a plus beaucoup de temps. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général au ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous disons également merci à Monsieur Mouliro Machaouri, chargé des programmes au bureau des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes naturelles, qui intervenait là depuis le Tchad. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine.
Merci infiniment.
Bien, mesdames et messieurs, merci d'être
merci
à l'écoute.
Beaucoup. À la prochaine.
À la prochaine, monsieur Mouliro. Nous allons suivre les informations dans quelques instants et puis on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette émission.